Les jardinières.
Comme chaque samedi, à la même heure, nous sommes prêts à parler jardinage. Bonjour Brian.
Bonjour Mylène.
En notre compagnie ce matin pour nous parler d'arbres et répondre bien sûr à vos questions jardinage, c'est Olivier Ribaud. Bonjour Olivier.
Eh bien bonjour à vous.
Olivier Ribaud, vous êtes pépiniériste et propriétaire d'Olivier Pépiniériste à Porrentruy. Merci d'être avec nous ce matin.
Soyez les bienvenus chez les jardinières, on se met au vert à jusqu'à 8h.
7h, 8h, les jardinières.
Olivier, le mois d'avril est assez capricieux entre journées ensoleillées mais venteuses, pluie, voire carrément neige. Nous n'avons pas encore eu droit à ces fameuses journées de printemps où il fait presque 20 degrés, ce fameux printemps doux. Du coup, qu'est-ce que vous conseillez aux jardiniers de faire ce week-end ?
Eh bien, je pense que ce week-end, ce sera quand même un week-end un tout petit peu meilleur que la semaine parce que je crois qu'on va avoir un tout petit peu plus de beau. On peut encore continuer, comme on l'a dit plusieurs fois, s'occuper encore de ces alentours au niveau arbustes, mais on peut aussi gentiment commencer. On voit plusieurs personnes qui sortent les tondeuses, même qu'il fait froid, ça a poussé quand même. Donc on égalise un peu ce qui veut bien pousser parce que c'est un peu compliqué le début de l'année pour les gazons. On a plus les mauvaises herbes qui poussent que vraiment le gazon. Donc on ramasse, on essaie de tondre au plus court possible. Pour les gazons les plus pauvres, eh bien, on commence d'un peu les nourrir avec un engrais gazon spécial. Et puis après, on fait aussi les premières scarifications et à rapporter un sursemis, donc de la graine de gazon, gentiment pour pouvoir les faire repousser. En sachant que c'est pas toujours facile maintenant parce que le sol est encore froid, donc même si c'est fait, la germination de ces graines vont mettre du temps. Donc on doit être patient, mais on peut déjà commencer d'attaquer ces travaux-là.
Merci beaucoup Olivier. Jusqu'à 8h, vous répondrez aux questions de nos auditeurs et toujours trois possibilités pour nous joindre, soit par téléphone 0900 70 20 20. Vous aurez la chance de parler directement avec Olivier. Vous avez aussi le choix du SMS. Vous tapez jardin, un espace et votre question. Vous envoyez ce message au 939 ou alors vous pouvez aussi utiliser le formulaire disponible sur notre site internet sous l'onglet émission questions aux jardinières avec la possibilité de joindre une photo.
Après une pause musicale, nous parlerons d'arbres, mais d'arbres peu ou pas connus. Olivier nous en dira plus sur ces arbres parfois oubliés, mais toujours extraordinaires.
7h, 8h, les jardinières.
Hop, je me trompe de page. Ce matin, nous allons voir grand. Olivier Ribaud, pépiniériste, est notre invité ce matin. Nous allons parler d'arbres, mais d'arbres qui sortent de l'ordinaire. Et vous verrez, il n'y a pas que les chênes, les marronniers ou les érables. Pour commencer, Olivier, est-ce que vous pouvez nous citer quelques espèces de ces arbres qui sortent de l'ordinaire et surtout des noms qu'on ne connaît pas ?
Alors oui, en effet, il n'y a pas que les chênes. Même que dans les chênes, il y a beaucoup de chênes qu'on ne connaît pas parce qu'on connaît les chênes de nos forêts. Mais par exemple, on sait que les bouchons qu'on met sur les bouteilles sont faits avec l'écorce du chêne liégeux qu'on ne voit pas chez nous, par exemple. Mais par contre, chez nous, on a quand même un grand nombre d'arbres qui sont pas forcément en forêt, mais qui sont dans des parcs et puis qui sont très bien adaptés à nos climats, depuis plusieurs années. Donc, vous avez comme par exemple le tulipier, qui s'appelle un liriodendron. Vous avez aussi je vais prendre par exemple quelques conifères. On a l'épicéa de Serbie qui est très implanté dans nos régions, mais qui n'est pas forcément de nos régions. Et vous avez aussi, on va le voir peut-être encore après, mais on a un conifère qu'on appelle le cyprès chauve. C'est un arbre qui vient très très grand et qui fait partie de ces conifères. Il y a 5 conifères qui sont reconnus, qui perdent leurs aiguilles pour l'hiver. Donc le cyprès chauve, c'est vraiment un arbre qui est magnifique. On en voit très très peu. Et aussi des arbres peu connus mais qu'on voit sur Neuchâtel, par exemple le cèdre du Liban, le cèdre libani. Il s'adapte, il s'est acclimaté dans ces régions-là, mais chez nous on le voit pas sur nos régions. Mais ça, c'est une question de sol après. Et puis après, vous avez aussi par exemple le liquidambar, par exemple, qui est aussi un arbre qui est très joli, qui fait des belles couleurs en automne. Donc on a vraiment une multitude d'arbres qui peuvent devenir grands, mais qui sont différents de ceux qu'on trouve en forêt. J'ai encore un autre exemple. Si vous avez en forêt, on va trouver des peupliers, on va trouver des arbres comme ça, le peuplier blanc ou le peuplier tremble, qu'on appelle le tremble, qu'on voit bouger ses feuilles, c'est magnifique. Mais dans les parcs, on va trouver le peuplier, le Populus italica nigra. C'est un peuplier olivier qui va pousser très droit, très haut, qui est un arbre qui a été implanté dans des jardins pour justement son aspect fuseau, comme ça, et puis qui est différent de ce qu'on trouve en pleine forêt.
Alors Olivier, on vous sent très passionné en tant que pépiniériste. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans ces espèces d'arbres?
Justement, c'est la diversité. Je suis très porté aussi sur les arbres indigènes. Hein. J'aime beaucoup aller en forêt, me balader, regarder les arbres. Je regarde aussi un peu le sol si on trouve quelques morilles. C'est temps, mais si on va se balader, maintenant aussi dans nos jardins, dans nos villes, on a encore des grands parcs, des grands jardins autour de maisons. Vous avez les magnolias qui sont magnifiques, bon, compris une forte gelée sur la floraison ces derniers temps. Et puis, il y a encore un autre arbre que moi, j'apprécie beaucoup, qui est très printanier, c'est l'arbre de Judée, le Cercis sequastrum. C'est un arbre qui fleurit violet, très intense, un violet très fort. Il a une floraison très abondante qui, malheureusement, cette année aussi a pris un coup de froid, donc on va presque pas beaucoup les voir fleurir. Mais après, son feuillage est très joli. Là, les feuilles sont en forme de cœur. Quand elles sortent au printemps, elles sont d'un vert tendre. Ça fait vraiment un bel arbre qui embellit nos parcs.
Olivier, on a envie d'aller se promener, de regarder tous ces arbres quand on vous écoute. Vous l'avez dit, hein, certains arbres viennent d'autres pays ou même d'autres continents plus éloignés. Est-ce qu'ils ont de la peine à s'adapter à notre climat ou ça marche ?
Alors justement, ces arbres, on a mis du temps et puis on change pas les sortes d'arbres indigènes de chez nous, mais seulement il y a des arbres qui ont été essayés à plusieurs endroits. On voit bien dans des grandes villes, le bord du lac de Léman, à Montreux ou comme ça, on a des vieux arbres qui sont d'essence vraiment, qui viennent de loin et qui se sont acclimatés avec le temps très bien à ces régions. Maintenant, avec les réchauffements, les changements de climat, la sécheresse aussi, parce qu'il ne faut pas seulement parler de réchauffement, on a des arbres qui s'adaptent plus volontiers, on le verra encore après dans l'émission, qui s'adaptent à nos températures, à nos sécheresses et à nos sols. Donc automatiquement, on change un petit peu, sans oublier bien sûr les espèces indigènes qui sont chez nous. Et puis, on a fait des erreurs par le passé qui sont un petit peu maintenant le résultat de choses qui s'est fait un peu n'importe comment. Je vais prendre un grand exemple, le palmier du Tessin par exemple. On a amené des palmiers au Tessin, ça s'est acclimaté, c'était super, on a trouvé un côté exotique à ça. Mais malheureusement maintenant, le retour de la médaille, c'est que les palmiers, ils se ressèment, les oiseaux aiment bien les graines, ils se sont ressemés naturellement et on les voit se propager dans les forêts très rapidement. C'est pour ça qu'il y a quand même des contrôles, l'Office de l'Environnement qui s'occupe de ça, et puis qu'on a des arbres qu'il faut éviter, le palmier du Tessin, il faut l'éviter, même qu'on trouve sur les commerces des palmiers, des trachycarpus, mais qui ne sont pas les mêmes variétés que ceux qui ont été plantés au Tessin en son temps. Donc il y a des choses qui sont contrôlées. Pour ceux qui connaissent, il y a le sumac, le vinaigrier, c'est un joli arbre, il fait des magnifiques couleurs d'automne, mais ça fait plusieurs années que tous les professionnels, ils le savent, on n'ose plus les vendre, il faut les vendre. Tous les professionnels de la branche, quand ils en voient pousser dans des régions, dans des jardins, dans des parcs, c'est des arbres qu'on élimine. Moi, je l'ai fait la semaine passée chez un client, j'ai éliminé deux petits arbustes de sumac, de russe, pour ne pas qu'ils se propagent dans son jardin.
Et puis, on parle aussi souvent de garder des espèces indigènes. Est-ce que ces arbres qui viennent d'ailleurs, ils s'entendent bien avec nos espèces indigènes ?
Alors oui, c'est clair qu'il faut garder nos espèces indigènes. On est tous dans le monde moderne, on est tous à vouloir un petit peu améliorer nos alentours. On voudrait faire un peu des changements. Alors, il y a des choses qui ont été changées drastiquement. Il y a des choses qu'on met du temps à changer. Mais encore ce matin, en venant à votre émission, j'ai vu sur de Léman ici, dans des bacs, devant une terrasse, des arbres indigènes. Il y avait du troène, il y avait des arbustes du fusain dans des bacs. Et dans le même bac, il y avait un photinia, qui est une plante qui n'est pas de chez nous, qui ressemble beaucoup au laurier, mais qui fait un feuillage rouge, qui a été importé maintenant depuis 3, 5, 10 ans, je ne sais pas exactement combien, mais qui vient du sud de l'Italie et qui s'est adapté à notre climat, puis qui passe ses hivers très bien chez nous.
Comme quoi, on peut s'entendre même en étant des végétaux. Merci beaucoup, Olivier. On va se retrouver dans quelques minutes et vous allez nous présenter plus en détail trois espèces d'arbres peu connues de nos régions.
Les jardinières.
Ce matin, nous sommes en compagnie d'Olivier Ribaud, pépiniériste à Port-en-Truy, et nous parlons d'arbres, mais d'arbres peu ordinaires et qui méritent d'être connus. Olivier, vous avez choisi quelques espèces à nous présenter. Alors, on va commencer avec l'arbre aux haricots.
Alors oui, c'est un arbre qui fait un grand développement, il vient assez volumineux, il vient grand, il vient haut, il ressemble beaucoup au niveau feuillage au platane de chez nous qu'on voit, mais qui n'est non plus pas le platane, un arbre indigène, donc il n'est pas d'Europe à l'origine, mais là le catalpa, on appelle l'arbre haricot, le catalpa bignoides, eh bien il fait ses fleurs blanches pendant l'été, et puis à l'automne, il fait le fruit qui fait un grand haricot qu'on voit pendre dans ses branches. Et puis, c'est pour ça qu'il s'appelle l'arbre aux haricots.
Est-ce qu'on peut manger ces haricots qui pendent à l'arbre ?
Non, je ne pense pas. Non, dommage. C'est pas du tout. Ça ressemble beaucoup aussi à une gousse de vanille. C'est très long, très, très brun. C'est plus long qu'un haricot, mais ça ressemblerait plus à une gousse de vanille. Mais il s'appelle l'arbre aux haricots.
On va se diriger maintenant vers une autre sorte d'arbre. Est-ce que vous pouvez nous parler du savonnier ?
Alors oui, le savonnier, c'est aussi un arbre qui est un petit peu tendance. Moi, je regarde un petit peu dans les grandes villes, les brochures des horticoles et autres. On a planté dans des zones urbaines, sur Genève, Lausanne, pas mal de savonniers. Donc c'est un arbre assez compliqué dans notre jargon. C'est un Coleoptera paniculata. Il est très apprécié parce qu'il supporte des sécheresses d'été très rigoureuses. Il fait peu de racines, donc il s'implante dans des zones urbaines où c'est qu'on a des fois des terrains pas très profonds. Et puis, il fait un grand volume de branches, donc une masse de feuillage après, pendant l'été, où c'est qu'on peut se mettre à l'aise en dessous pour se protéger du soleil. Donc, c'est vraiment un arbre qui vient aussi en feuillage au printemps rapidement, et puis qui fait une belle ombrelle. Et après, à l'automne, il a encore ce côté décoratif parce qu'il va faire des grandes poches de fleurs qui vont sécher, et ça va représenter comme des petites lanternes qu'on va avoir des fois dans les bouquets de fleurs, ces lanternes oranges, ce qu'on appellera la lanterne de Chine. Mais là, il a la même fleur, donc qui sèche sur l'arbre, qui reste pendant l'hiver, et qui, au milieu, il y a un fruit qui a donné le nom au savonnier qu'on a utilisé, mais il y a très 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 longtemps. Ces graines, ils étaient utilisées justement pour faire des savons. Donc c'était un petit peu des savons très, très basiques, mais c'est pour ça qu'il s'appelle le savonnier.
Merci beaucoup Olivier. On va découvrir encore une dernière variété d'arbres. C'est l'arbre aux écus, mais je propose qu'on le découvre après la pause musicale, météo et inforoute.
Les jardinières.
Suite des jardinières, nous parlons ce matin d'arbres qui sortent de l'ordinaire. D'ailleurs, si vous avez manqué cette partie, vous pourrez la réécouter en cours de matinée. Nous sommes toujours en compagnie d'Olivier Ribaud, pépiniériste et propriétaire d'Olivier Pépiniériste à Port-en-Truy. Il est notre invité jusqu'à 8h. On va encore un peu parler de ces arbres peu ordinaires dans quelques instants.
Olivier est prêt aussi à répondre à vos questions jardinage. Appelez-nous au 0900 170 20 20 pour 36 centimes la minute et vous aurez la chance de parler en direct avec notre invité. Vous pouvez aussi envoyer un SMS, vous tapez jardin, un espace et votre question. Vous terminez par votre nom et puis il suffit de l'envoyer, ce SMS, au 939. Et puis dernière possibilité, vous vous rendez sur notre site internet sous l'onglet émissions, questions aux jardinières. Vous pouvez remplir le formulaire à disposition et puis vous pourrez joindre une photo à votre question.
Olivier, vous nous avez parlé de l'arbre de Judée, de ses belles fleurs roses, du cyprès chauve, ce conifère qui perd ses aiguilles, de l'arbre aux haricots, du liquidambar, du cèdre du Liban. On va s'arrêter maintenant quelques instants sur l'arbre aux écus. Est-ce qu'il fait pousser de l'argent ?
Non, alors tout à fait, l'arbre aux écus, il fait partie, comme on l'a dit avant, de ces cinq conifères, parce que en fait, c'est le seul conifère, l'arbre aux écus, qui fait une feuille. Mais si on regarde cette feuille de très très près, on voit sur la feuille que c'est toutes des aiguilles qui se sont collées ensemble. Et l'arbre aux écus, c'est plus connu sous le nom de Gingko biloba. Donc c'est cet arbre qui fait un feuillage vert en été, en toute la saison d'été. Et puis en automne, eh bien, il vient jaune, mais vraiment jaune, couleur or. Et c'est pour ça qu'il vient cette couleur en l'espace d'une semaine, 10 jours. Et après, il reste jaune pendant 15 jours, 3 semaines. Et il fait vraiment une couleur jaune or magnifique.
Et puis, parmi toutes ces sortes d'arbres, c'est laquelle que vous préférez, Olivier ?
Alors justement, ce sera là la question la plus compliquée, parce que j'en aime pas passablement. J'aime voir aussi, j'observe beaucoup des arbres un peu spéciaux. Mais je vais vous en parler d'un autre encore qu'on n'a pas parlé ce matin. C'est l'arbre de soie. L'arbre de soie, et non pas l'arbre à soie. Parce que l'arbre de soie, c'est un albizia. Donc l'albizia, il fait un feuillage qui est très très découpé. Il fait à peu près les mêmes feuilles que le mimosa. Pour ceux qui connaissent le mimosa, on voit à carnaval, on reçoit le mimosa à fleurs jaunes, et puis il a une feuille toute fine, toute découpée. Donc l'arbre de soie, c'est un albizia, et ça c'est vraiment un arbre qui j'aime beaucoup. Mais à l'opposé, on a aussi, par exemple, l'arbre que j'aime particulièrement retrouver dans nos régions en Franche-Montagne, c'est l'alisier blanc. C'est aussi un arbre qui est magnifique, qui fait aussi une couleur rouge en automne, qui est splendide. Donc c'est le sorbier aria, le sorbus aria, l'alisier blanc. Après, il fait un fruit qu'on peut aussi utiliser pour faire quelques transformations que je crois que tu es allé découvrir par chez nous il n'y a pas très longtemps.
On a
donc,
joie.
C'est vraiment des arbres qui sont à l'opposé, parce que c'est deux arbres qui poussent chez nous, mais qui sont vraiment différents. Je faisais une allusion avant, vous avez l'arbre de soie, donc l'albizia, et puis vous avez aussi, celui-là, il est aussi joli, mais j'en ai aussi vendu et planté dans notre région, et on en trouve quelques-uns, c'est l'arbre à soie, donc c'est un Morus alba, c'est un mûrier blanc en français, et c'est là-dessus que dans des régions plus chaudes, où c'est qu'on les cultive, il vient le verre à soie et qu'on va utiliser pour faire la soie proprement dit. Et non, cette soie n'est pas faite sur l'arbre de soie. Alors c'est un peu compliqué, mais c'est deux arbres différents.
Merci Olivier. Là, vous nous avez étalé toute votre passion pour ces arbres peu ordinaires. Pour terminer, est-ce qu'il y a un arbre que vous détestez ?
Ah, c'est une bonne question.
Est-ce que quand on est pépiniériste, on peut détester un arbre, à part le thuya ?
Alors, je vais pas me focaliser sur un arbre, mais je vais faire un groupe d'arbres. J'aime pas les arbres qui piquent, parce que je trouve ça une épine noire, ça peut être joli, mais j'en mettrai pas dans mon jardin, par exemple. Mais après, ça peut de loin rester un arbre joli, mais après. Pour les entretiens, c'est pas des arbres très intéressants, à part si on doit les mettre pour protéger des bords ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment l'arbre qui me dérangerait le plus. Mais sinon, comme vous le dites, c'est une passion. Moi, les arbres, c'est quelque chose que j'aime. Quand on parle d'un chêne, on a les chênes de nos forêts, mais si je vous dis un chêne pubescent, c'est une variété de chêne qu'on commence de replanter chez nous dans notre région, parce que c'est un chêne qui tient très bien à la sécheresse. Mais on connaît des collectionneurs de chênes en France où c'est qu'ils ont plus de 600 variétés de chênes différents. Donc il faut savoir que dans les arbres, on a les indigènes, mais il faut aussi oser regarder un petit peu plus large. Et il y a des marchés de plantes qui se font à différents endroits. Je fais un petit peu de publicité pour Copé qui se trouve au bord du lac Léman. Ils font un marché de plantes qui est un petit peu spéciaux. On trouve ça aussi beaucoup dans d'autres régions, mais c'est vraiment intéressant pour les passionnés d'aller voir une fois ou l'autre ces marchés et ces marchands qui vous proposent des plantes différentes.
Merci beaucoup Olivier, on a presque pas envie de vous arrêter quand vous nous racontez toutes ces histoires d'arbres. C'est super intéressant, mais pour l'instant, place à Shakira, puis après on répondra à vos questions.
7h, 8h, Les Jardinières.
Les Jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. Nous allons répondre à vos questions. Tout d'abord, on va vous rappeler peut-être comment faire pour nous joindre.
Et oui, vous avez trois possibilités pour poser des questions à notre spécialiste. La première, c'est par téléphone au 0970 20 20. Et puis, vous aurez la chance de parler directement à notre spécialiste. Sinon, vous pouvez aussi utiliser les SMS. Vous tapez votre question. Vous tapez jardin, pardon, votre question, et puis vous terminez par votre nom, vous l'envoyez au 939 ce message. Ou alors, troisième possibilité, sur notre site internet, sous l'onglet émission, questions aux jardinières, vous aurez la chance de joindre une photo.
Olivier, nous avons reçu une question qui parle de rosiers. C'est une question de Germaine de Villeray. Elle nous dit « Bonjour, étant partie en vacances une semaine, mes rosiers ont beaucoup poussé durant cette période. Puis-je encore les tailler ? Ce sont des rosiers qui ont 40 ans. Merci pour vos bons conseils et bonne journée. »
Alors oui, bien sûr, ces rosiers, on a eu une petite période de chaud fin mars, début d'avril, où c'est que les rosiers ont débourré et puis qu'on commençait de faire du feuillage rapidement, en une semaine, 10 jours. Et puis maintenant, on a eu ces retours de froid qui les ont même fait geler un petit peu sur les extrémités. Donc ça, c'est pas grave, on peut les tailler encore maintenant, bien sûr, en sachant que tailler un rosier toujours assez court au printemps pour qu'il repousse beaucoup plus, beaucoup mieux pendant la saison d'été. Alors ça, on peut encore le faire maintenant. Nous, on l'a encore fait hier, on va le faire encore pendant 2-3 semaines de tailler des rosiers, il n'y a pas de problème. Sans oublier que quand on taille un rosier, qu'on va lui demander à refaire de la branche, refaire des fleurs pour le faire pousser, il faut lui amener quelque chose de nutrition, donc ramener quelque chose dans le sol. Maintenant, pour que ça aille vite, on est obligé de passer par des engrais soit biologiques ou organiques ou chimiques, ou alors après, on peut encore y apporter du compost, ça mettra plus de temps. Mais seulement, il ne faut pas vouloir que tailler, il faut aussi lui donner la possibilité de repousser derrière.
Merci beaucoup Olivier, on a un auditeur qui nous a appelé, Anthony de Port-en-Truy, et Anthony il va nous poser une question Olivier.
Ah, on n'entend pas très bien Anthony.
On l'entend pas très bien.
Oui, bonjour monsieur Ribaud.
Bonjour monsieur Anthony.
J'aurais une petite question.
Je vous écoute.
Ça s'appelle un semain entouré d'herbe?
Ah. C'était la question qu'on attendait ce matin.
Un chemin entouré d'herbes.
C'est une allée, monsieur oui. Anthony. On l'a.
Oui, c'est parce qu'un chemin entouré d'herbes, ça s'appelle une allée.
Il faudrait une explication, par contre.
Allez.
Ça, c'est des restes
d'ajoie.
D'ajoie, ouais. C'est des grands supporters
du
HCA. Ça. Et une petite chanson qui a été mise en place par ce cher Anthony de Port-en-Truy. Allez, merci, bonne journée Anthony.
Merci beaucoup Anthony
pour cette précision.
et pour votre chanson, c'était très très sympathique. Revenons à nos moutons, plutôt à nos citronniers. Brian, vous avez une question qui concerne un citronnier justement.
Exactement. Écoutez, c'est Catherine de Cofrane qui nous a appelé pour son citronnier qui fait des fruits, mais les citrons n'ont pas une belle couleur, ils sont presque plus brun clair que jaune. Elle nous a joint une photo. D'ailleurs, Olivier, est-ce que vous avez peut-être une réponse à cette question? Qu'est-ce qui fait que ces citrons sont plus brun clair que jaune?
Oui, alors je pense que... Oui, j'ai reçu la photo. Il faut savoir que le citronnier, il fleurit. Et après, il va mettre 12 mois de la floraison pour amener son fruit à maturité. Donc, il faut savoir que quand on cueille le citron, c'est quand il y a la floraison de l'année suivante. Après, le citronnier, dans nos contrées, si la peau, la chair du citron n'est peut-être pas exactement ce qu'on aimerait, ça peut venir justement dans quoi il a poussé. Donc, le sol, la terre, il peut manquer de quelques éléments nutritifs ou quelque chose comme ça. Et puis aussi, peut-être manquer de lumière. Luminosité pour avoir un développement des couleurs vraiment intense. On voit souvent les citronniers, ils sont pas très verts foncés comme quand on va en vacances, on les voit dans les champs, ils sont beaux verts, ils sont rudes, alors ça peut manquer soit de soleil, soit de lumière ou quelque chose comme ça. Après, je trouve qu'ils sont déjà pas trop mal pour dire, parce que c'est pas toujours facile de garder un citronnier en forme, avec les écarts de température, la chaleur, le manque de lumière qu'on a pendant la saison d'hiver ici. Donc moi je m'attellerai plus à faire continuer de pousser son citronnier, les utiliser comme ça, et puis nourrir, parce que cette plante elle est dans un pot, avec un engrais spécial agrumes pour pouvoir continuer d'avoir une petite récolte chaque année comme ça.
Merci beaucoup Olivier pour ces précisions. Une dernière question, c'est Anita de Delémont qui demande: quand puis-je planter les oignons de dahlia? Merci pour votre réponse.
Alors c'est une période qui est propice maintenant, en sachant que même s'il fait froid, les dahlias, les pommes de terre, tout ce qu'on va mettre sous terre, eh bien on peut déjà les mettre en terre, à part si le sol est trop humide et puis trop collant, c'est plus là-dessus qu'il faut faire attention. Mais si son terrain sous substrat ou si c'est dans un pot, on peut déjà les mettre en terre, bien sûr. Si c'est dans un pot, on peut même les garder un petit peu au chaud pour les faire commencer de pousser déjà un petit peu à l'intérieur, ou sinon alors en pleine terre, et puis si vraiment encore les couvrir un peu de feuilles mortes ou de branches de sapin ou d'une jute en dessus du sol. On le voit dans la Suisse maintenant, dans les cultures maraîchères, toutes ces étendues de champs qui sont bouchées par des voiles blancs. C'est pour de la protection contre le froid. Donc on a mis en place les pommes de terre, les carottes, tout ce qui est sous terre, on pourrait le mettre maintenant et les protéger. Ça marchera très bien.
Merci beaucoup Olivier. Dans quelques minutes, vous aurez encore l'occasion de répondre aux dernières questions de nos auditeurs. Des questions, on le rappelle rapidement, qui peuvent nous parvenir soit par téléphone au 0900 70 20 20, soit par SMS, vous tapez jardin, votre question et puis votre nom, vous envoyez ça au 939. Ou alors, vous pouvez aussi prendre le formulaire qui se trouve sur notre site internet sous l'onglet émission questions aux jardinières. Pour l'instant, place à la musique.
7h, 8h, les jardinières.
Il est temps pour les jardinières de filer, mais avant de libérer Olivier, une dernière question. Le week-end s'annonce plus ou moins humide, humide plus la nuit, plus ensoleillé la journée, avec quelques éclaircies. Qu'est-ce que vous, Olivier, vous allez faire ce week-end ?
Je vais aller faire comme un petit peu tout le monde, encore m'occuper soit de ce qu'on a dit avant, ces premières plantations, mais je vais rester un petit peu dans le thème de ce qu'on a parlé ce matin, et puis je vais peut-être un petit peu dériver, mais je vais aller voir mon araucaria.
Alors, faut nous en dire plus.
Hein. Voilà. Alors, un araucaria, c'est aussi un arbre qui est très particulier pour ces gens qui connaissent un peu les végétaux exotiques. On va un petit peu. C'est un arbre qui est d'origine d'Argentine ou du Chili. Alors, bien sûr, j'en ai pas un chez moi parce que je n'ai pas la place pour avoir ce genre de plante. Et puis, ça pousse très difficilement. Mais en français, ça s'appelle le désespoir des singes. Alors, c'est un arbre qui fait partie de la famille des conifères. Et qui fait des branches, pas avec plusieurs ramifications, mais ça fait qu'un tube. Et puis tout le long de cette branche qui forme comme un tube, comme un grand rouleau, eh bien, il y a tous des pics, des picots. Et c'est pour ça que ça s'appelle le désespoir des singes. On ne peut pas grimper dedans, on ne peut pas aller y faire un nid dedans ou bien se balader dans cet arbre. C'est très compliqué. Mais c'est très joli parce que ça fait un arbre un peu comme un sapin, un tronc droit au milieu, avec des branches parallèles de chaque côté. Et ça, pour des passionnés, on en voit quelques-uns dans des parcs, dans des jardins, de nouveau dans des régions un peu plus méditerranéennes comme les bords de lac ou comme ça. Il y a des grandes villas où c'est qu'ils ont cet arbre au milieu de leur parc et qui donne un effet un petit peu différent que de voir toujours un arbre standard de chez nous. Mais c'est justement ne jamais oublier qu'on a des arbres indigènes, mais on essaye aussi d'un petit peu s'adapter. Il y a même les châtaigniers qui deviennent un petit peu des arbres qu'on va implanter à plusieurs endroits, même en forêt cette fois, pour le citer. On ne les retrouve pas que seulement au Valais, à la fameuse région de la châtaigne. Donc il faut savoir que les végétaux, on peut un petit peu trouver des arbres un peu différents partout.
Merci beaucoup Olivier, on rappelle que vous êtes pépiniériste et propriétaire d'Olivier Pépiniériste à Porrentruy. Passez un bon week-end et à bientôt.
Merci à vous.
Et bonne balade. Samedi prochain, dès 7h, nous vous emmènerons en Dunjoie à la découverte de la Damascine. Nous serons en compagnie d'Alain Perret, responsable de l'exploitation au Verger d'Ajoie. Nous parlerons des arbres et de leur histoire, mais aussi des fruits, de la cuisine, peut-être un petit peu d'alcool. On verra tout ça. Bon week-end, Brian.
Bon week-end, Mylène.
Et bon week-end à toutes et à tous.
7h, 8h, les jardinières.